tous les
Le bon chocolat que vous nous avez offert, Nathalie.
Ouais.
Bien, vous avez apporté des cœurs en chocolat.
Ben oui.
Est-ce que vous en avez donné? Ben, premièrement, est-ce que vous célébrez la Saint-Valentin avec Michel?
Oui, nous l'avons célébré.
C'est cute.
C'est vrai?
Oui, tout à fait.
Comment?
C'est pas de vos affaires.
Non, on est allé au resto.
On est allé au resto, puis on a eu du fun. On a rencontré deux couples échangistes. Non, c'est pas vrai.
Hey, voyons.
C'est votre nouvelle affaire, ça. Vous dites quelque chose et vous nous laissez même pas le temps d'avoir le moment où est-ce qu'on se dit, c'est-tu vrai que vous répétez. Vous lancez. Alors, je suis allé, non, c'est pas vrai. Mais laissez durer votre blague un peu qu'on embarque. Là.
Ah ouais, okay,
vous êtes rendu bonne là-dedans.
Oui, c'est la delivery, c'est ça.
Oui, c'est dans le delivery, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas important. Mais quel resto? Vous avez fait quel resto?
Est-ce que je le dis? Je peux te dire? On adore, c'est la meilleure place en ville. En fait, c'est au Central, mais c'est le Pinxo. Puis là, c'est des fruits de mer, des trucs. Il y a Alonso, qui est le cook et le propriétaire. Il est super sympathique. On y va tout le temps. On a bien du fun. Et puis, c'est ça. Mais alors, si vous allez au Central, allez là.
Mais c'est quoi comme nourriture?
Des tapas.
C'est des tapas. C'est espagnol, portugais, mexicain, mais c'est pas grave.
Jeudi, j'haïs les tapas, les petits plats partagés, petites assiettes avec quatre choux de Bruxelles.
Ça,
on peut tout en revenir?
Moi, je suis d'accord avec ça. L'autre fois, j'ai mis mes culottes. Toutes mes amies ont commandé des choses à partager, puis moi, j'ai pris mes plats.
Merci.
À moi.
Ça, c'est vrai. Je suis d'accord.
Mes taxes, mon plat. Voilà. Mais là, les gens se séparent un petit bout de crouton, un petit bout d'asperge. C'est assez.
Le mieux, c'est d'aller souper avec une amie qui mange presque pas. J'ai une amie comme ça qui mange presque pas.
Qui?
Raphaël. Elle travaille dans les émissions de télé.
Est-ce que son chum serait pas dans Big Brother?
Oui, absolument. C'est ça. Son chum, c'est David de la Morgane.
David de la Morgane.
Et il s'en sort bien. Là. En tout cas, il est à mi-chemin. Alors,
Il fait 6 500 $ par semaine.
C'est vrai, ça?
Oui.
Ça, perlipopette.
Ah, ben, ouais, le chalet s'en vient.
Puis,
à côté de vous.
Et c'est le fun, ça, parce qu'on dépense pas quand on est là.
Ben non.
On dépense pas une scène.
On est logé nourri.
Absolument. Vous regardez Big Brother? Olivier?
Cette année, j'ai abandonné. Je pense que j'ai fait une erreur.
C'est du génie cette année.
Moi, j'ai regardé quand Barbada a quitté.
On dit Barbara.
Non, pas Barbara. Barbada, j'étais très contente qu'elle parte.
Pourquoi?
D'ailleurs, moi, j'aurais fait la même chose, sinon je serais vraiment allée dans cette émission. Mais voyons donc, c'est ridicule, ces affaires-là. Les alliances, les machins, on s'en fout. Honnêtement, on s'en contre-torche.
Mais attendez, vous n'aviez pas d'alliance à la presse, me semble-t-il,
Nathalie était dans toutes les alliances à la presse.
Même dans l'alliance qui est contre elle, j'imagine.
Oui, surtout celle-là.
Non, c'est très bon cette année.
Ah oui, bien,
les joueurs savent jouer, il y a de l'action. Ils sont pas dans l'observation, ils sont vraiment dans la partie.
T'sais, c'est comme regarder un jeu vidéo. Moi, j'ai jamais joué à un jeu vidéo, je comprends rien.
Ça
m'intéresse pas. Puis je vois pas. Hey, à l'aune de la souffrance du monde, vous regardez ça.
Il y a des enfants qui meurent de faim.
Exactement.
En
ça, là, le whataboutism, c'est assez. Là.
Vous avez raison, Hugo. Mais j'ai remarqué une chose, Nathalie. Et vous en allez vers ça. Là.
Vers la mort.
Vous êtes un peu comme mon arrière-grand-mère, Aline.
Même pas sa grand-mère. Arrière-grand-mère.
Elle avait un chapelet. Et quand elle parlait, elle jouait avec son chapelet. Ah. Vous êtes rendu que vous faites la même chose. Vous jouez avec votre collier quand vous parlez. Puis là, je me disais, mon Dieu. Elle va manger, elle peut manger aussi des ça c'était mon autre arrière-grand-mère,
des Pringles.
Avec son
moi j'aime les chips à la truffe.
Ben évidemment. pas un vulgaire sac de Lay's nature.
Vous aimez les chips à la truffe?
Ah, j'adore.
Ah, c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse, ça goûte l'ail.
Ça goûte la merde.
Non. Puis il y en a maintenant plusieurs déclinaisons.
Excusez-moi.
En plus.
La
plusieurs
à quoi?
Marques.
La truffe noire, la truffe blanche.
Mais non, plusieurs chips. Ah, laissez faire.
Plusieurs coupes de chips.
Bon, je vous ai donné un chocolat, là. J'espère que ça vous
Oui, vous avez raison. Je suis très content. Je l'ai pris. Chocolat noir est excellent. De chez Première Moisson. Maintenant, votre Saint-Valentin, vous l'avez passé au restaurant?
Oui.
Est-ce que vous avez fait l'amour?
Ben là,
oh mon Dieu, Jean-Philippe.
Non, mais je veux dire, c'est la
Sur les ondes publiques de Radio-Canada, est-ce que je...
On peut pas parler d'amour sur les ondes publiques de Radio-Canada.
Ne me parler de sexe, pas d'amour.
C'est ça. Faire l'amour, ça peut être d'autres choses. Ça peut être se prendre par la main et lire un bon livre de Simone de Beauvoir.
Écoutez, vous demanderez ça à M. Lacombe.
On l'appelle. Je vais le texter. Mitch.
Ah ouais, let's go.
Did you hit it last night?
Oh my God.
Vous, votre Saint-Valentin, Olivier?
C'est personnel, mais oui, j'ai fait l'amour.
Et,
Non, mais pour vrai, fait hier soir.
Comment?
Non, mais hier soir, bravo, les Sandrine. Trois hommes de... Êtes-vous en train de décrire?
Oui, bravo Sandrine.
Non, mais hier soir, les trois hommes de la maison ont joué au hockey, fait que ça n'a pas été une grosse soirée de Saint-Valentin, pour tout vous avouer.
C'est vrai?
OK. Ouais.
Vous avez scoré en arrivant. Bon, 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 bon.
Olivier nous a dit sans prologue.
Ben, je suis pas bien. On dirait que je suis pas bien.
Ben non, mais
vous, après, ben
là, j'ai des images.
Vous, est-ce que vous avez, célébré la Saint-Valentin?
Ouais. Moi, j'ai célébré la Saint-Valentin en regardant À cœur battant où Linda Johnson s'est suicidée et s'est insérée une note d'adieu dans son vagin.
Et elle a dit, mon vagin sera garant de la vérité.
Attendez un peu.
Ça a été ma Saint-Valentin.
Excusez-moi, là.
Vous suivez pas À cœur battant, hein?
Ben là, clairement pas.
Linda Johnson, elle est paraplégique et son mari, en fait, pas fin, André Robitaille, veut qu'elle meure parce qu'il est tanné de s'occuper d'elle.
André Robitaille, est pas fin.
Il est pas fin.
C'est fait.
Oh, dans la série?
Dans la série. Okay.
Ouais,
Et là, c'est fait. Il l'a poussé au suicide. Et elle voulait que la vérité sorte parce que personne ne la croyait que son mari était violent. Donc, elle a écrit sa note de suicide qu'elle a mise dans un petit flacon de pilule.
Dans son vagin. Dans son vagin.
Et là, le coroner l'a trouvé. Voilà.
Pendant l'autopsie.
Ouais. Wow. Merci.
Il est... Allez écouter le prologue. Il est 13h06. C'est les jeux du GI. La journée est encore jeune. Le finissant sur un high, comme ils disent en Colombie-Britannique.
On s'excuse à l'avance.
Et là, alors, on est en direct de nos jeudis jaillis avec Hugo Delameunier, Nathalie Delapetrovski, Olivier Niquet. Oui, on est très content de vous avoir. C'est une grosse journée, évidemment. C'est le post-Saint-Valentin. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que Nathalie, Olivier et Hugo ont fait lors de leur soirée de Saint-Valentin, écoutez le prologue.
Je gagne, hein?
Vous avez gagné. Je pense que j'ai gagné.
Je pense que oui.
Vous avez gagné.
Votre vagin sera. Non,
non, non. Non. Elle a brûlé le punch.
J'ai rien dit.
On est en direct, l'information autrement. Et on commence immédiatement avec Olivier, comme ça, on va, ça va nous enlever le goût dans la bouche, comme on dit.
Olivier, Niquette, feinte, 4, 7.
Ben, beaucoup de nouvelles autour de la course à la chefferie du PLQ.
Ben non, Philippe, arrêtez.
Nicolas Tétrault, vous vous souvenez, le candidat dont je vous ai parlé, qui serait souverainiste et conservateur et dont on a découvert qu'il était peut-être aussi climato-sceptique et contre les vaccins, ben, il a accordé une entrevue à Jean-Christophe Ouellet de Radio X. Ça a bien commencé. Comment allez-vous?
Ça va toujours bien quand je vous parle. J'aurais aimé ça parler à M. Moron ce matin qui a parlé dans mon dos.
Voyons, un instant. Parce que effectivement, Moron, c'était pas gentil. Et en même temps, c'était justifié parce que M. Tétrault était très insulté de ce qu'il n'avait pas vraiment entendu des propos de Dominique Moret.
Je suis quelqu'un de très positif et de bonne humeur, mais je cherche pas le conflit gratuitement, puis je j'abaisse jamais les gens gratuitement.
Là, vous venez de le traiter de moron, vous dites que vous êtes pas quelqu'un qui
Moret, je me suis trompé.
Vous êtes trompé.
Mais l'avez-vous écouté? C'est quoi la partie?
Vous lui reprochez quoi exactement dans l'entrevue? Là? Je l'ai pas écouté, moi.
J'ai écouté seulement une partie parce qu'on vient de me rapporter avant votre entrevue, donc j'étais en train de l'écouter, puis j'ai fait l'entrevue avec vous. Donc, tout ce que je trouve, c'est qu'avant d'attaquer des gens, on devrait peut-être écouter les gens.
Voilà, d'attaquer les gens, il faut les écouter, nous dit-il, tout juste après avoir avoué qu'il n'avait pas écouté la personne qui venait de traiter de moron. Et en passant, tout ce qu'il avait dit, M. Moret, c'est que Nicolas Tétrault a un peu l'air d'un troll, et je dois dire qu'il n'y a rien de moron dans cette hypothèse-là. Mais le clou du spectacle de la chefferie du PLQ, ça a bien sûr été le scrum de Denis Coderre à l'Assemblée nationale. Il était bien excité, Denis. Ça sent le scrum! Oui, et Capitaine Canada voulait surtout parler de référendum dans ce scrum. Toujours un sujet pertinent, selon lui.
Pensez-vous qu'il y a un appétit encore chez les gens pour ça?
Pourquoi j'ai un scrum le matin, vous pensez? C'est parce qu'il y a un appétit, t'as faim? On a tous faim à ça.
Oui, des référendums, il en mange. En fait, on dirait que M. Coderre veut surtout essayer de nous mettre l'eau à la bouche. Et évidemment, Mario Dumont à Cube avait une analogie pour nous le faire comprendre.
Et l'exemple qui m'est venu tout de suite, c'est le vendeur de parapluies qui essaye de vendre des parapluies une journée qui fait bien beau. Là, il faut qu'il convainque les gens avec son baromètre ou son almanach du peuple. « Ah, vous êtes mieux d'acheter un parapluie, là, il va mouiller. Ça va être terrible. »
Ça, c'est l'exemple qui lui est venu spontanément en tête.
Wow.
Le vendeur de parapluies avec son baromètre et son almanach du peuple. La communauté des vendeurs de parapluies est sûrement contente qu'on parle enfin d'elle.
Ah,
mais
bravo.
Pour rester dans les figures de style, ce matin au 98.5, M. Coderre a encore sorti sa ligne pour expliquer que de détruire le Canada, c'est pas sa priorité.
Moi, quand le toit coule, je jette pas mes en terre.
Non, désolé pour les vendeurs de parapluies à l'écoute. Donc, si le toit coule, on s'occupe du toit qui coule, sauf quand c'est le temps d'aller rencontrer les militants dans les régions.
Je vais aller région par région, mais je pense qu'avant, quand le toit coule, occupe-toi de la fondation pour voir si elle ne coule pas.
Ah, mais ben finalement, si le toit coule, on peut quand même travailler sur la fondation. Et oui, comme l'a déjà dit 3782 fois un célèbre politicien, on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps.
Voilà.
En tout cas, on sent que M. Coderre aime avoir de l'attention, même s'il assure qu'il n'était pas hier à l'Assemblée nationale pour ça.
Mais qu'est-ce qui vous amène ici, justement, là, de faire une meilleure idée sur votre avenir politique?
Bien, moi, j'aime le parlementarisme.
Ah, il était là par amour du parlementarisme, tout simplement. Wow. Mario Dumont dirait que c'est comme d'arriver à l'aréna tout habillé avec un équipement de hockey puis de dire « Non, non, je veux pas jouer au hockey, c'est juste que j'aime les arénas. » En ce qui a trait au cocktail de financement, bien, la veille, le chef intérimaire Marc Tanguay avait encore dénoncé la CAQ.
À un moment donné, il est dans une activité de financement, puis il commence à se faire parler d'un dossier. Il doit, de façon proactive, dire « Oups, je vous arrête. Mon bon ami, c'est pas le lieu, c'est pas le moment pour parler de cela. Je vous invite à respecter la loi sur le lobbyisme. »
Oui, une scène typique de cocktail. Sauf que Denis Coderre semble pas être du genre à dire « Mon bon ami, attention, la loi sur le lobbyisme. » Et il suffit d'aller dans ses soupers spaghettis du passé pour s'en rendre compte.
Moi, là, venant mes soupers spaghettis du passé, j'avais 1500 personnes, puis... Est-ce qu'on parlait juste de l'Allemagne du peuple? Je pense pas.
Ah, voyons, quand
même. Mais d'un autre côté, j'inviterai jamais une personne pour dire, ben si tu veux, profite-en, puis donne-moi 200 piastres, puis viens voir Mme Guilbeault.
Qu'est-ce que vous pensez?
Moi, je suis un gars gratis.
Je pense qu'on va comprendre pourquoi Mario Dumont a eu un flash d'Almanach du peuple. Donc, Denis, c'est un gars gratis. Et d'ailleurs, il a donné du temps d'antenne gratis au chef du PQ qui passait par là.
Il est temps, il est temps, il est temps.
Bon, tu vas
faire une nouvelle.
Bienvenue à l'Assemblée nationale.
Il est temps, tu vas faire les nouvelles. Généreux comme ça, ce cher Denis. Cela dit...
Il a changé, par exemple, c'est ça qu'il prend.
Oui, cela dit, j'allais vous croire qu'il avait changé. Comment ça qu'il a changé? Cela dit, ces deux-là s'entendront pas sur les façons de protéger le français. Ce matin, au 98.5, il y avait un bon argument pour démontrer que c'était pas si pire.
Quand on est en économie, c'est l'offre et la demande. Si on continue à leur répondre en anglais, c'est qui le problème?
Non, mais...
Faut s'assumer, c'est tout.
Ben oui, mais faut s'assumer, mais faut aussi avoir des mesures qui font en sorte
J'étais
que les gens...
J'étais chez Apple hier sur Sainte-Catherine, en parlant français.
Ah bon, ben il y a de l'espoir quand même, et encore faudrait-il que M. Coderre soit élu. Il compte se présenter dans la région de Québec où sa victoire est quasiment assurée.
Quel signal vous avez dans la région de Québec que vous pourriez être un député bien accueilli?
Ben, matin, j'ai pris un café au McDonald's, puis elle a dit, si vous y allez, je vous appuie.
Voilà. la fille du McDo lui a dit qu'elle voterait pour lui. La fille du Apple Store lui a parlé en français. Ce sont les solides bases pour le capitaine Canada.
Mais juste d'être précis, là, il n'a pas encore confirmé, puisqu'il n'a pas encore fait son truc.
Non,
là.
Non, mais... Dès qu'il revient de Compostel, on va le savoir.
OK. Mon Dieu. C'est tout un suspense, comme on dit.
Ouais.
Une autre personne qui doit avoir hâte d'avoir la réponse de Denis Coderre, c'est Moncef Deragy, qui est député libéral de Nelligan, avec qui on va parler évidemment de ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pour que le Québec adopte le 0.05, un projet de loi qui a été déposé. Bon, on sait que qui va être déposé, mais on sait que la CAQ va voter contre. Moncef Deragy, bonjour.
Oui, bonjour.
Ben, écoutez, on a eu la nouvelle ce matin. La CAQ a voté contre votre motion ce matin, mais je sais que les péquistes, les solidaires l'ont accepté et l'ont appuyé. Tous les députés de la CAQ ont voté du même côté que sa chef, Geneviève Guilbeault, excusez-moi, son chef, François Legault. Je me dis, à quoi ça sert quand on a une Assemblée nationale à ce point majoritaire de déposer des projets de loi en sachant que ça va tomber dans l'eau?
Bah, écoutez, quand même, je vais pas être pessimiste, là. Il y a quand même des choses qu'on peut changer, sinon on va fermer le Parlement et revenir chez nous, on ne rien faire, là. Moi, je pense pas que c'est ça notre motivation chaque semaine. Il faut jamais perdre espoir. Écoutez, le gouvernement a déjà reculé. En fait, ils méritent la médaille nationale des reculs. Ils ont tellement reculé que ça va leur coller jusqu'à la fin de leur mandat. Recul sur troisième lien, recul sur plein de promesses. Moi, j'ai hâte vraiment qu'ils reculent sur leur décision du 0.08 parce que toutes les évidences, toutes les données probantes sont du côté de baisser les seuils vers 0.05.
Mais vous voyez, c'est un peu spécial parce que d'entre tous les projets de loi qu'on peut déposer ou qu'on peut voir à l'Assemblée nationale, celui-là me semble probablement un des plus logiques, des plus faciles à accepter, surtout quand toutes les provinces au Canada vont de l'avant avec 0.05, on a les données. Et pourtant, la CAQ est contre. Est-ce que vous avez parce que là, on peut dire contre pour mille raisons, mais la vraie raison qui se pose à ça, est-ce que vous la connaissez?
Ben, premièrement, aujourd'hui, c'est juste une première étape. Le projet de loi, on va commencer l'étude détaillée la semaine prochaine. Ouais. Donc, je pense que Mme Geneviève Guilbeault a eu juste géré l'entrée de ce que on lui prépare pour l'étude détaillée. Donc, il a ben être ben très bien préparé pour des arguments solides, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas entendu d'argument de sa part. Il n'y a aucun argument. Aucun, zéro.
Ben en même temps, elle nous parlait des gens de région qui allaient être pénalisés parce que les gens de région, si je comprends la logique de la CAQ, aiment chauffer sous. Et je me dis, c'est quand même une drôle de façon de voir. Lorsque la CAQ nous répond que les gens de région seraient pénalisés si on enlevait le 0.08 pour un 0.05, vous comprenez quoi, vous?
Ben, je comprends rien parce que Saskatchewan, c'est quoi? C'est une ville. Manitoba, c'est quoi? La Colombie-Britannique. Et à ce que sache tout le Canada, c'est des régions très éloignés, même réalité. Et vous savez quoi? Saskatchewan sont à 0.04. On est les seuls avec le Yukon. Mais, à 0.08. Ouais.
Mais c'est bizarre quand même parce que, bon, là, on voit que vous avez une grande passion pour ce dossier-là. Évidemment, si le Parti libéral avait déjà été au pouvoir au Québec, ça aurait déjà passé. Mais vous avez jamais pris... Attendez un petit peu, moi. Ah non, là, si vous me prenez de court, là, ça a été proposé en 2007, en 2010, en 2017 sous l'ère libérale, et ça n'a jamais passé, cette histoire-là. Alors, est-ce que c'est pas facile d'en parler dans l'opposition et lorsqu'on vient au pouvoir, on a de la difficulté à plier ou à ne pas plier devant les lobbies des restaurateurs, les lobbies des chauffeurs de trucks en région, des trucs du genre?
Non, non, je vais vous dire pourquoi. Premièrement, ça fait quoi depuis 2017? Ça fait quoi? Ça fait 7 ans maintenant. Même l'opinion publique a changé. À l'époque, on n'était pas 62%. Maintenant, 62% de Québécois appuient. C'est le dernier sondage de la courbe de l'information. Ouais. Même la mentalité au Québec évolue. On n'est plus en 2017. Moi, je ne veux pas qu'on commence à réfléchir en 2017. Je veux qu'on améliore le bilan de la sécurité routière. Mais je veux qu'on sauve des vies. C'est pour cela que je maintiens ce combat au nom de ce couple. Et d'ailleurs, en 2017, il n'y avait pas ce couple qui menait la bataille au nom des parents endeuillés. Il n'y avait pas de commission parlementaire pour dire, écoutez, je suis allé même participer à un cocktail pour sensibiliser Madame la vice-première ministre. Nous sommes dans une autre opposition où on a pas mal d'études scientifiques et vous savez quoi? On a le recul. La Colombie-Britannique, une fois ils ont mis en place le 0.05, ils ont baissé le nombre d'accidents mortels de 52%. Ça prend pas un doctorat en mathématiques pour comprendre que 52%, ça sauve pas mal de vies.
Je suis d'accord, mais en même temps, je pense, et puis ça, c'est ce que Nathalie Petrovski nous disait hors d'onde avant de commencer, je pense comme elle que le problème, c'est les skidoo. Essayons de faire du skidoo à moins 25, c'est, je veux dire, à juin, c'est quand même difficile. Là. Y a pas justement un argumentaire là-dessus qui pourrait aider la CAQ à essayer de nous faire comprendre pourquoi on n'enlèverait pas le 0.08?
Hier, la vice-première ministre nous a essayé de dire que les jeunes sont sensibles et vous savez, on n'est plus dans l'image où on chauffait nos voitures avec de la bière entre les cuisses dans la voiture. Je dirais, il n'y a tellement pas d'arguments. Moi, je n'ai pas entendu Madame la ministre ne parler des régions ni du transport en commun parce que ça va être bien plate. C'est elle qui est responsable du transport en commun en région.
Ben oui.
Il a oublié que c'est elle la responsable du transport en commun, donc il n'a pas parlé de ça. Et vous savez, par rapport aux arguments des restaurateurs, j'ai une bonne pour vous.
Allez-y.
Est-ce que vous savez qu'est-ce que M. Fitzgibbon a déclaré hier?
Ah ben c'est embêtant, je peux pas suivre toujours ce que M. Fitzgibbon dit, mais d'habitude j'aime ça.
Mais j'ai une bonne réponse. Il a dit que baisser le seuil à 0.05, ça va pas nuire au commerce. Ben, on a le meilleur ministre de l'économie. Ça, c'est la parole de M. François Legault, qui dit que ça n'aura pas d'effet sur les commerces.
Donc, il n'y aurait pas de raison qu'on ne baisse pas à 0.05. Écoutez, j'ai l'impression qu'à force d'entendre, Geneviève Guilbeault va finir par vous écouter. C'est le sentiment que j'ai. En attendant, je me dis, si ils ne vous entendent pas, peut-être parler à Denis Coderre, qui, visiblement, a le tour avec les caméras. Peut-être que si vous lui donnez le dossier, ça ferait peut-être avancer les choses. Pas besoin d'être élu au Parlement pour pouvoir défendre un dossier.
Non, 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 c'est quand même un dossier que je mène depuis quand même 8 jours avec notre équipe libérale. Monsieur Denis Coderre peut continuer à préparer sa campagne. Je lui souhaite bonne chance.
C'est pas encore confirmé, là, je vous rassure. Là, il va confirmer après ça au retour. Oui, exactement, exactement. En attendant, c'est bizarre parce qu'on l'a suivi hier à l'Assemblée nationale, Denis Coderre, et il était entouré de beaucoup de gens, mais pas de libéraux. Il a serré la main au Parti québécois. Il a croisé quelques personnes d'autres partis. Mais on dirait que les libéraux avaient peur de se promener avec Denis Coderre. Pourquoi donc?
Non, parce que nous, on travaillait.
Ah! Je pense que c'est le punch de la soirée. Monsieur, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de nous répondre. Bonne chance avec ce dossier-là. J'imagine qu'à un moment donné, ça va bouger. Je vous remercie encore une fois. Je rappelle qu'on parlait à Monsieur Déragi, qui est député libéral de Nelligan. Merci beaucoup, Monsieur.
Au revoir.
Au revoir.
La grande vadrouille à Petrovski.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Est-ce que vous avez déjà conduit, vous, un petit peu chaude avec une bière des gens?
Jamais. Bon, parfait. Jamais.
Vous êtes allé voir Mouton hier, c'est le nouveau spectacle de Mehdi Boussaïdan. Allez-vous nous dire que vous êtes tombé sous le charme comme avec Roxane Bruno?
Non, pas tout à fait.
Non, vous vous rappelez de ça, hein? On avait tous été sous le champ.
Elle avait bu le Kool-Aid.
Elle avait bu le Kool-Aid de Roxane. Allez-y, là.
Alors, c'était pas hier, c'était la semaine passée. C'était sa première. Alors, moi, je suis allée parce que ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler de Mehdi. Hein? Mehdi Boussaïdan, on le sait, il est né en Algérie, il est arrivé ici à 5 ans et il a connu, dans les dernières années, une carrière fulgurante. Et donc...
On l'a beaucoup aidé.
Oui, d'ailleurs.
Prenant comme chroniqueur à la soirée.
Jusqu'à ce que vous ayez une mise en demeure de je ne sais plus trop qui. Là. Non, mais OK. Laissez faire.
Je n'aime pas
ça. Vous vous en souvenez? Oui. Mise en demeure. À cause de lui.
Ah oui.
Donc, toujours est-il que 2019, il avait son show de main. Il était partout. LOL, le bye-bye, like moi, le maître du jeu en ligne. Il était partout. Et puis, du jour au lendemain, pouf, disparu.
Il a fait l'île de l'amour aussi.
L'île de l'amour aussi, effectivement. Ouais. On n'a jamais trop su pourquoi, mais il est parti se ressourcer à Paris. C'est possible.
Ben, je ne sais pas, là. C'est vous la journaliste.
Perrault, excusez.
Allez-y.
Donc, alors, en 2019, il présente son premier one-man show, ça s'appelle Demain. Et la critique est dithyrambique, intelligent, réfléchi, cultivé.
Je l'avais vu et ça l'était.
Bon. La critique de Mouton, éparpillé, échevelé, fade, générique. Alors, en fait, au lieu d'appeler ça Mouton, il aurait peut-être dû appeler ça Brebis galeuse de cette année.
Bravo!
Alors, est-ce que la critique, en fait, c'est les deux critiques, hein, on s'entend, il y a deux critiques. Est-ce qu'ils ont tort ou ont raison?
C'est la presse et le devoir, je le précise.
La presse et le devoir, le rose et le noir de la presse et le devoir. Est-ce qu'ils ont tort ou raison? Ben moi, je dirais qu'ils ont en partie raison, en partie seulement, parce que Mehdi, il ne tombe jamais aussi bas que Jérémy Demé. C'est assez impossible. Mais il ne vole jamais aussi haut dans le penthouse avec Louis-José Houd, avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jean, qui est absolument formidable. Il est entre les deux et moi, je le soupçonne d'être un petit peu paresseux. C'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de talent, un talent naturel de conteur. Mais mettons qu'il compte beaucoup là-dessus et comme auteur, disons qu'il se casse pas trop le bicyc ni le coccyx. Le coccyx.
C'est un scénario de la prochaine série.
Je vous lis l'argument de vente de Mouton. Mouton est une métaphore pleine d'autodérision où l'humoriste explore avec une touche de sarcasme les différents aspects de la conformité sociale et de l'absence de libre-arbitre. Okay? Le problème avec cette belle présentation, c'est que Mehdi fait une seule blague qui concerne le fameux Mouton parce que son père lui a demandé de choisir un mouton. Lui, il croyait que c'était pour qu'il devienne un animal domestique. Finalement, c'était pour le manger.
Ouais.
Donc, il fait cette blague-là qu'on voit venir depuis Trois-Rivières, quasiment.
Bon, si vous l'avez vu venir.
Imagine. Puis là, il passe à un autre appel. Alors, tout l'aspect de la conformité sociale du mouton, on la cherche, on la trouve pas. Ouais. Ou bien non, c'est mal exploité, je le sais pas. Tout ce que je sais, je peux vous donner en résumé ce qu'il nous dit de lui-même, parce qu'il parle un petit peu de lui-même quand même dans son show. Okay. Alors, il a une carte gold de chez Costco, il conduit une Jeep électrique, il a une montre Apple avec laquelle il essaye de se masturber, mais c'est difficile parce que quand t'as une... tu comprends le poignet? Tu comprends le poignet? Il s'est marié, il a déménagé à Saint-Adolphe, il rêve d'être un gars de bois, mais il se contente de pisser dans la douche. Et de regarder des séries de tueurs en série sur Netflix en priant pour ne pas être attaqué par un maniaque en cagoule. Finalement, c'est lui qui suit bêtement le troupeau comme un mouton. Alors, cela dit, je veux quand même dire, j'y ris.
Ah ben ça.
Pas tout le temps, mais il y a des hiboux, je ne me rappelle plus lesquels. Là, mais...
non, mais ça sert à rien là, de frapper
j'y ris aux larmes, j'avais des larmes. Là,
ah oui, aux larmes.
Quand même.
Mais pas tout le temps. Il y a eu aussi des grands bouts où je... bon, c'est ça, il se passait pas grand-chose. Mais comme disait Shakespeare, le mouton s'égare souvent quand le berger n'est pas là. Ou mieux encore, comme disait Vladimir Poutine, c'est comme tondre un mouton, beaucoup de cris et peu de laine.
Voilà. Vladimir a déjà dit ça?
Oui, exactement.
C'est vrai, ça?
Oui, mais il l'a pas dit à moi, là. Il l'a dit au dictionnaire de citation.
Donc, combien sur 10? Mettez un sur 10.
Okay. Sur 10, je donnerais un 6,5 sur 10.
Ah, parce que quand même pas
si mal. Quand même. Faut y donner ça.
Ben oui, c'est l'autre méchant, Dominique Tardif.
Oui, c'est ça, ils sont jaloux. Ah,
ben, exactement, c'est ce que je pensais. Merci beaucoup, Nathalie. Merci énormément. Est-ce que vous avez regardé Super Bowl? Parce que je vous rappelle, vous avez fait une chronique sur les 17 milliards d'ailes de poulet.
On en a mangé, elles étaient excellentes.
Bon!
Ben, on a regardé surtout le mi-temps, mais il était un peu poche. Ben, on remarque qu'il avait des beaux abdos, ça j'avoue, mais moi, je sais que contrairement à ici, mon collègue Hugo, qui a trouvé ça extraordinaire...
Non. J'ai dit que c'était correct.
Non, t'as trouvé ça extraordinaire, t'as dit qu'il était bien bon.
La mi-temps, voyons, lisez comme il faut, Nathalie. Là. J'ai écrit c'est correct.
C'était correct, exactement. Mais moi, mon ami Hugo Dumas m'écrivait pendant le match qu'il avait vu Lana Del Rey
dans
les estrades. C'était
Lana? Au lieu de voir Taylor Swift, on voyait Lana Del Rey. Je trouvais qu'on était ailleurs.
Ah ouais, on était ailleurs. Un nouveau show. Complètement ailleurs. C'est le thème, évidemment, du premier film d'X-13 qui avait été réalisé à l'époque par Jacques Godbout.
Le seul film.
Oui, absolument, le seul film. Mais là, on peut jeter un œil à partir de cette semaine sur la série X-13. X-13 et la course à l'uranium qui est diffusée sur le Club Illico. Je vous ai lu ce matin, et paraît-il dans la presse, d'ailleurs.
C'est vraiment bon.
Paraît-il que c'est très bon. Moi, j'avais de grandes attentes sur cette série.
Là, on a entendu la chanson de Louise Foresti du film de Jacques Godbout. Ouais. Ce n'est plus ça, parce qu'on se rappelle, le film, c'était quand même une parodie. C'était une comédie musicale burlesque.
Les
décors étaient cheap, ou c'était un peu fait comme le Batman de l'époque avec Adam West, où c'était comme Capal, Bling Bang.
Avec Marc Laurent.
C'était exactement ça.
C'était André Dubois qui jouait X-13. Et il y avait aussi Louisette Dussault, Carole Laure, Luce Guilbeault. Et ça m'étonne que Jean-Sébastien soit pas là parce que c'est un peu son public.
Jean-Sébastien, il est sur la table d'opération.
Est-ce que vous vous souvenez? Ah oui, qu'est-ce qui se passe?
Ah ben, ils se font enlever la rate, je pense.
Est-ce que vous vous souvenez de Sky Lolo, le lutteur?
Oui,
il jouait dans X-13. C'était un lutteur nain qui mesurait 3 pieds 6. Bref, c'était un peu tout ça. Et ça a été, bon, on se base pas sur le film, on se base sur les romans de Pierre Daigneault qui écrit ça. Il en a écrit 900 et quelques et plus. Ouais. Donc, on sort de ce matériel-là. Entre 47 et 56, il en a écrit...
C'est-tu des romans de 2 pages?
Non, c'est des romans de 32 pages. C'est des fascicules qui étaient brochés. Mais bref, il en a écrit plus de 900 entre 1947 et 66. Et c'est Gilles Desjardins, l'auteur, qui est formidable, qui est tellement bon, qui a refait Les Pays d'en haut sous une forme d'un western, le fun, où c'était pas du tout Séraphin qui comptait ses écus en barouettant Karine Van Ness, finalement. Bref, on est là-dedans. Est-ce que si vous avez vu Peaky Blinders...
Non, c'est pas Karine Van Ness.
Mais dans le film,
non,
oui.
Non, mais dans le film, oui, Nathalie.
Il y a eu plusieurs
incarnations.
Sarah Jean Labre, blablabla.
Oui, Peaky Blinders, j'ai regardé la première saison.
C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un film noir un peu des années 40. On est à Montréal dans le Red Light en 1945, quelques mois après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. X-13, qui est joué par Marc-André Grondin, est revenu à Montréal. Il n'est plus agent secret. Il est rendu propriétaire d'un club, un genre de faisan doré ou une Casa Loma.
Ça s'appelle le Cristal, je pense.
Le club Cristal. Ouais. Et il y a une chanteuse travestie qui est dans son club, qui pogne beaucoup et qui est jouée par le fils de J.C. Lajoie, Pierre-Gabriel Lajoie,
qui est magnifique, très bon. Et qui est gentil.
Mais là, évidemment, la retraite de X-13 ne dure pas longtemps parce qu'il y a des rumeurs qu'il y a une cellule d'espions russes qui sont à Montréal pour acheter de l'uranium enrichi parce que Montréal a été une plaque tournante des recherches sur l'uranium dans les années 40 et Staline veut faire une bombe atomique pour tuer tout le monde et là, X-13 doit empêcher ça. Il est accompagné de Julie Le Breton, de Vincent Leclerc et de Hugolin Chevrette qui sont les 4 espions principaux qui sont super bons, qui nous rappellent quand même beaucoup la distribution des pays d'en haut. Julie Le Breton, Vincent Leclerc, il y a beaucoup d'acteurs, Madeleine Péloquin aussi, qui reviennent, qui sont très bons. Mais il y a un côté cartoon, il y a un côté film noir, c'est drôle, il y a des petits gadgets d'espions.
C'est ça que je me posais la question.
Il y a un trailer, parce que vraiment, il y a une cellule d'espions qui sont là et qui sont un peu, qui sont l'agent piano, l'agent saxophone, l'agent violoncelle. On veut savoir
Parce que moi, j'ai ri beaucoup dans ce
film-là. Mais moi, le film, je l'avais pas tant aimé. J'avais trouvé ça un peu quétaine.
C'est quétaine, mais
ça aurait pu être dans votre club de cinéma avec Marc Cassidy.
Absolument, absolument. C'est un peu un genre de l'agent fait la farce.
Oui, un peu. C'était vraiment fait comme ça. Là, on est vraiment dans un thriller. On veut savoir ce qui se passe.
Ça fonctionne pour vrai.
Ça fonctionne très bien. C'est tourné dans... Il fait toujours noir, les gens fument, il y a des scotch, mais il y a toujours des petits gadgets d'espion, du poison dans une fiole, un couteau caché dans un soulier, une pièce cachée qui s'ouvre, et là, on est là-dedans. Et j'ai hâte de voir comment ça va finir. Il y a seulement 8 épisodes, c'est 2 par semaine. Donc, les 2 premiers aujourd'hui sur le Club Illico, 2 la semaine prochaine, 2 l'autre semaine.
Ah, on est chanceux d'avoir ça au Québec. Pour vrai, je suis content de regarder ça. Merci énormément. Merci, Nathalie, d'avoir toujours été aussi gentille avec nous. Adieu.
Adieu.